Elle dit, ah bon, vous vous souvenez pas de moi? Je dis, non, non, je suis désolée, pas du tout. Elle dit, pourtant, qu'est-ce que vous m'avez parlé? Vous m'avez parlé au moins pendant 2 heures. Et je n'en garde aucun souvenir. Alors je lui demande, mais dites-moi ce que je vous ai dit. Ah non, non. Je dis, mais si, si, ça m'intéresse, dites-moi ce que je vous ai raconté. Et elle a jamais voulu me le dire.
Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour.
Bonjour Sarah.
J'aimerais bien que tu me racontes un peu quelle était ta vie dans les années 80.
J'avais une vie agréable. J'avais une petite fille qui avait une dizaine d'années. Je vivais en couple avec un homme qui était producteur de télévision et j'exerçais le métier d'avocate.
Et vous aviez une passion en commun, ou alors en tous les cas tu l'as rejoint sur une passion, c'était la passion du pilotage.
Oui, pilotage d'hélicoptère.
Bah, tu peux nous en parler un peu parce que c'est un peu incroyable comme passion.
Ben, mon compagnon avait appris à piloter un hélicoptère. Et il en avait même acheté un. Et donc, j'avais commencé à apprendre à piloter moi aussi. Et avec les copains pilotes, il a été décidé d'aller passer un week-end à la montagne pour que tous les pilotes de la bande apprennent le pilotage en montagne.
Tu l'as fait parce que tu avais envie de pas rester toute seule tous les week-ends, ou parce que vraiment, si tu trouvais ça cool d'abord de voler, quoi?
Ah non, je trouvais ça génial de voler. Et c'est même moi qui ai piloté pour amener l'hélicoptère à la montagne. Je n'ai pas fait le décollage ni l'atterrissage, mais tout le trajet, c'est moi qui ai piloté.
Alors, il faut expliquer que dans un hélicoptère, il y a une double commande. Donc, les deux personnes qui sont devant peuvent piloter.
Ouais, exactement.
Et le week-end se passe bien, vous faites quoi comme activité?
Ben, c'était un grand week-end du 1er mai. Et donc, on arrive à la montagne et donc on fait connaissance avec les gendarmes de haute montagne.
Pourquoi les gendarmes?
Parce que c'est eux qui font les secours en montagne et c'est eux qui devaient nous apprendre le pilotage en montagne.
D'accord.
Et donc, ils étaient très sympas, il faisait beau. Et on a même organisé un pique-nique, j'étais la seule femme.
Donc, c'est toi qui as fait les sandwichs.
Donc, c'est moi qui ai fait les sandwichs. Exactement. Donc, j'avais préparé le pique-nique pour tout le monde, pour la bande de copains pilotes et pour les gendarmes. Et on avait passé une très bonne journée. Voilà.
Et t'as piloté un peu pendant ce week-end-là?
Alors, j'ai failli piloter, mais j'ai fait un petit peu la mauvaise tête, justement, parce qu'un déjeuner, c'était le déjeuner du 4 mai. Je disais que j'avais pas encore piloté.
À qui tu dis ça, pardon?
Je dis ça à mon compagnon, je dis à table avec tout le monde, parce que depuis la veille j'avais volé, on avait survolé le Mont Blanc, etc. Mais je n'avais pas encore piloté. Et je dis ça fait 3 jours qu'on est là et j'ai pas encore piloté. Et après le déjeuner, on décide mon compagnon et un des membres de la bande d'aller faire un tour sur le Mont Blanc pour elle, parce que lui n'avait pas encore vu le Mont Blanc, le troisième larron qui était là.
Ça doit être sublime, le Mont Blanc en plein soleil, en hélico, t'es comme un oiseau, quoi.
C'était magnifique. Et donc on va pour monter et comme tu l'as rappelé, c'est ceux qui sont assis devant les deux qui peuvent piloter, et derrière, il y a deux places, mais on ne peut pas piloter. Le copain qui m'avait entendu râler au déjeuner me dit, bah, monte devant. Je dis, non. Moi, je l'ai déjà vu le Mont Blanc hier, c'est trop beau. Monte devant, c'est là que tu verras mieux. Et donc.
T'as hésité à lui laisser ta place ou pas?
Ah, j'ai pas hésité un quart d'instant. C'est lui qui m'a dit, monte devant, parce qu'il m'avait entendu râler pour que je puisse piloter. J'ai dit, non, monte devant, parce que tu verras, le spectacle est sublime, et donc je suis montée derrière.
Donc, grand soleil, tous les voyants sont au vert, quoi.
Ouais. Ouais, tous les voyants sont au vert. On a le plein. On avait fait le plein dans une société de travail en montagne en hélicoptère. J'avais discuté à cette occasion avec les pilotes de haute montagne. Alors ils m'ont dit que eux travaillaient avec des Alouette 3 qui avaient des moteurs extrêmement puissants, parce que quand on profitait des vents ascendants qui sont près des parois pour s'élever, mais que si on était trop près de la paroi, on pouvait être victime d'un vent rabattant qui rabattait l'hélico sur la paroi, et que le Jet Ranger n'était peut-être pas suffisamment puissant pour résister à un vent rabattant, contrairement aux Alouette 3.
Bon, mais ça vous empêche pas de partir?
Pas du tout.
Donc, vous démarrez la balade?
Oui, on démarre la balade, il fait beau, le ciel est bleu, la montagne est belle, et on monte tout doucement, on s'approche, on se dirige vers le Mont Blanc. Le pilote se rapproche de la paroi pour monter, pour profiter des vents ascendants. Et là, je lui dis, souviens-toi de ce que nous a dit le type hier, pas trop près de la paroi, pour pas être victime d'un vent rabattant. Et lui me dit, bah, écoute, c'est moi qui pilote, laisse-moi piloter tranquille.
Mêle-toi tes affaires.
Un peu, un peu. Et quelques secondes plus tard, on cogne la paroi. Le pal de l'hélicoptère cogne la paroi. Et je sais que c'est le crash.
Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
Il se passe un truc complètement délirant. C'est que j'ai pas du tout conscience à cette seconde de la gravité des conséquences, puisque je me dis, protégeons ma tête. Et je me mets les deux mains sur la tête et on part en vrille. Et après, je ne me souviens de rien. Je me souviens juste qu'on est parti en... Comment dire?
Comme un tonneau?
Comme un tonneau, comme à la foire du trône, un truc qui tourne, et je me souviens plus de rien.
Et c'est quoi ton premier souvenir après?
Mon premier souvenir après? Ben, j'ai su que c'était quelques jours plus tard, quand je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital, mais c'était 3 jours après.
Et qui tu vois, ou est-ce que tu sais où t'es? Comment ça se passe?
En fait, j'ai eu un coup de téléphone de ma mère.
Il n'y avait pas de portable à l'époque?
Pas du tout. En fait, elle savait pas où j'étais quand je suis partie. Et elle avait entendu un copain qui l'a appelé, un copain moi elle l'a appelé, parce qu'il avait entendu que le producteur de l'émission de télévision avait eu un accident d'hélicoptère. Donc il a appelé ma mère pour avoir des nouvelles, et c'est comme ça que ma mère a appris que j'avais eu un accident d'hélicoptère. Donc il avait entendu ça sur France Info, donc elle a appelé France Info, qui l'a gentiment renseigné, et à l'hôpital d'Annecy, elle est tombée sur quelqu'un d'extraordinaire, puisque la dame qu'elle a eue au téléphone a compris son angoisse. Elle lui a dit, elle est dans sa chambre, elle dort, mais je vais vous la passer.
Donc déjà, elle lui a dit, elle est vivante, elle peut parler, quoi.
Exactement. Et donc, on la passe au téléphone. Et ma mère me dit que c'est Alain qui lui a dit que j'avais eu un accident d'hélicoptère. Et il paraît que je lui ai dit, quel con. Et ma mère dit, c'est bon, elle a toute sa tête. Elle savait pas dans quel état j'étais, mais compte tenu de ma réaction, elle a dit, c'est bon, elle a sa tête. Voilà, c'est mon premier souvenir.
corps est dans quel état à ce moment-là? Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que tu vois?
Là, je vois rien encore. Parce que là, d'abord, c'était... Là, je vois rien. Mais je suis dans une chambre d'hôpital. Je suis tout endolorie, mais apparemment, j'ai pas été opérée, j'ai rien eu.
Et puis déjà, si t'es endolorie, c'est que tu sens tes jambes et tes bras.
Oui. En fait, c'est un miracle, compte tenu de l'accident qui a eu lieu, que je sois vivante. Parce qu'on a cogné à 100 mètres du sommet du Mont Blanc, ça je l'ai vu et je l'ai su dans les comptes rendus. L'hélicoptère est parti en vrille et donc en miettes.
Il n'y avait plus de carcasse, il n'y avait plus rien?
Il n'y avait plus rien. Les débris, il n'y en avait même plus, parce qu'en fait, j'avais fait une glissade de 500 mètres et je me suis arrêtée au bord d'une barre rocheuse où il y avait une crevasse. Et les débris de l'hélicoptère, ils étaient dans la crevasse.
Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas glissé avec le reste?
Je ne sais pas. Et malheureusement, dans l'accident, il y a eu un mort, qui n'était pas le pilote.
Qui était le monsieur à qui t'avais laissé ta place?
Qui était le monsieur à qui j'avais laissé ma place.
Tu l'as su quand qu'il y avait eu un mort?
Je l'ai su quelques jours plus tard. Je l'ai su quelques jours plus tard, parce que tout ce que j'ai su, on me l'a raconté. On m'a raconté, donc... En fait, les secouristes, quand ils sont venus, c'est parce que le Mont Blanc, il se trouve que le Mont Blanc est toujours regardé à la jumelle par plein de monde.
Et il y a quoi, des touristes ou des...
Des touristes qui se promènent et qui regardent le Mont Blanc. Et il y a des touristes qui ont appelé les secours en disant qu'un parapente s'était cassé la figure. Ils ont cru voir un parapente se casser la figure. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont vu les miettes de l'hélicoptère qui sont tournées? J'en sais rien. Mais quand les gendarmes sont partis, il se trouve que c'était les gendarmes que je connaissais, avec qui j'avais pique-niqué la veille, sont partis en hélicoptère pour chercher des gens qui s'étaient cassés la figure en parapente. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu un mort, mon compagnon.
Il était dans quel état, ton compagnon?
Il n'avait pas eu grand-chose. Miraculeusement, il n'avait pas eu grand-chose. Et il a appris, lui, qui avait eu un mort, parce qu'il a entendu les gendarmes dire « Delta, Charlie, Delta ».
Tu peux expliquer?
Delta, c'est D, Charlie, c'est C, Delta, ce sont les termes
militaires
en aviation. Et donc, quand il a entendu Delta, Charlie, Delta, il a compris qu'il y avait un mort, mais il ne savait pas qui c'était. Et quand ils sont descendus plus bas, et qu'ils m'ont vu.
Donc, ils ont repris l'hélico, parce que 500 mètres, tu les fais pas en corde, en rappel, quoi. Ils ont repris l'hélico pour te chercher?
J'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Bonne question. Bonne question. J'en ai aucune idée. Ou est-ce qu'ils ont vu en arrivant qu'il y avait un corps plus bas? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que quand ils m'ont récupérée, j'étais vivante, je saignais beaucoup, mais ils pensaient que j'avais eu la main coupée dans l'accident, puisque en fait, quand ils m'ont vue, j'avais un pullover et j'avais la main qui ne dépassait pas du pullover. Donc ils ont cherché ma main pour me ramener à l'hôpital avec ma main. Sauf que j'avais une température, paraît-il, qui était descendue à 27 degrés et qu'à 26, on meurt. Donc, ils ont dit, on ne peut pas rester là avec elle, il faut la ramener.
Sans la main?
Pour eux, ils m'ont déposé à l'hôpital de Chambéry sans la main. Et ils en étaient bouleversés parce que... Enfin, je pense qu'ils auraient été bouleversés de n'importe quelle personne, mais en plus, quand ils ont compris que c'était quelqu'un qu'ils connaissaient, c'était, je pense, encore pire pour eux. Et donc, ils m'ont déposée à l'hôpital de Chambéry. Sauf qu'à l'époque, nous sommes en 89, ben, l'hôpital de Chambéry ne disposait pas de scanner. Donc, comme j'étais dans le coma, il fallait vite me faire un scanner, parce que je ne sais plus ce qu'on m'avait expliqué, que s'il y avait une ponction, quelque chose à faire sur le cerveau, s'il y avait des contusions, s'il fallait pomper du sang, etc., etc., il n'y avait que quelques heures pour le faire, et donc il fallait savoir s'il fallait le faire ou non.
Toi, quand tu te réveilles, tu es à Annecy.
Quand je me réveille, je suis à Annecy.
Et donc, tu vois un médecin, qu'est-ce qu'il te dit sur ton état?
Ben, dans la bande, il y avait de pilotes, il y avait deux amis médecins qui étaient là. Et donc, ils étaient à mon chevet avec le médecin de l'hôpital, qui était une femme. Mais en réalité, j'ai très, très, très peu de souvenirs de ce qui s'est passé. J'ai peu de souvenirs de ce qui s'est passé, si ce n'est ce qu'on m'a raconté. Parce que, au bout de quelques jours, à Annecy, mes amis médecins ont obtenu de pouvoir m'emmener en avion sanitaire dans l'hôpital où travaillait un des amis médecins pour qu'ils me suivent en région parisienne. Et donc, je devais pas avoir quand même une conscience très, très éveillée, puisque je garde très, très peu de souvenirs de ce transport en avion pour m'amener à Paris.
Et donc, une fois que tu es à Paris, tu es hospitalisée combien de temps et qu'est-ce qui se passe?
Je suis hospitalisée 3 semaines. J'avais des côtes cassées, donc c'était très douloureux. Et j'étais... alors, heureusement que je me suis pas vue, ou pas vraiment, pas dans la glace en tout cas, puisque j'étais noire, comme du charbon, des pieds à la tête. Visage, main, corps, tout était noir et gonflé. En fait, j'étais un énorme bleu.
Un énorme bleu noir.
Un énorme bleu noir. Et la main en question, celle dont on a pensé qu'elle avait été coupée, en fait, elle était bien là, mais elle était noire et elle avait... quadruplé ou quintuplé de volume. Et je me suis dit qu'elle a dû quand même protéger ma tête.
J'aimerais bien que tu racontes l'anecdote de quand tu as appelé la première personne qui t'a prise en charge à ton réveil.
Oui, alors, comme je suis restée 3 semaines à l'hôpital à Paris, et c'est là que mes amis médecins, et notamment celui dans le service duquel j'étais hospitalisée, m'a dit que la toubib d'Annecy avait été formidable. Et donc, quand j'allais mieux, j'ai pris mon téléphone pour la remercier. Et je lui dis, écoutez, je suis désolée, je me souviens pas de vous, mais le docteur qui était avec moi m'a dit que vous étiez formidablement occupée de moi et je voulais vous remercier. Elle dit, ah bon, vous vous souvenez pas de moi? Je dis, non, je suis désolée, pas du tout. Elle dit pourtant, qu'est-ce que vous m'avez parlé? Vous m'avez parlé au moins pendant 2 heures. Et je n'en garde aucun souvenir. Alors je lui demande, mais dites-moi ce que je vous ai dit. Ah non. Ben, je dis, mais si, ça m'intéresse, dites-moi ce que je vous ai raconté. Et elle a jamais voulu me le dire. Alors j'ai fantasmé, je me suis dit, peut-être que je lui ai dit des horreurs sur le pilote, peut-être que je lui ai raconté ma vie, je sais pas. Et j'ai appris par la suite que déontologiquement, un médecin, paraît-il, ne doit pas dire à son patient ce qu'il a pu raconter quand il n'avait pas toute sa conscience. Donc elle a dû considérer que j'avais pas toute ma conscience, et pour cause, puisque je me souvenais pas. Et franchement, j'aurais bien aimé le savoir.
Comment ta fille l'a su?
Comment ma fille l'a su? Je pense que c'est mon ami qui l'a appelé pour lui dire. Parce que normalement, à la fin du week-end, je devais aller la récupérer. Et donc, c'est elle qui l'a ramenée en train à Paris. Elle était avec des gamins, dont un qui avait un an de plus qu'elle, donc ils avaient une dizaine d'années, et qui a eu la bonne idée de lui dire « ta mère est morte ». Ce qui était faux, évidemment, il le savait. Mais ce petit garçon avait perdu son papa, peu de temps avant, alors il était...
Troublé.
Sûrement. Il devait être troublé et il lui a dit cette horreur.
Elle a dû être contente de nous voir, du coup.
Ben, j'en sais rien si elle était contente de me voir, parce que... Il paraît que quand elle est venue me voir là, à Paris, à l'hôpital, elle a tourné de l'œil quand elle a vu le bout de mon pied qui dépassait du lit, qui était tout noir. On a dû la prendre en charge. Et la préparer à ce qu'elle me voit quelques jours après.
Donc, retour à Paris, à ta vie, dans ton appart. Et comment tu remontes un peu physiquement la pente ?
Au bout de 3 semaines, quand je rentre à la maison, j'ai repris figure humaine. C'est-à-dire que ma main a dégonflé, les bleus sont plus clairs, donc je ne suis plus marron, je suis jaune-vert. J'ai du mal à respirer, à m'asseoir parce que j'ai quelques côtes cassées. Et je suis troublée parce que... Comme avec mes côtes cassées, donc je reste couchée, mais par exemple, je peux m'asseoir, mais je m'assois tout doucement parce que j'ai un peu mal partout. Et bien que tous mes mouvements soient très lents, j'ai la tête qui tourne. Et j'ai mon compagnon qui me dit, c'est normal avec ce que tu as eu. Je dis, comment ça? C'est pas les côtes cassées qui font que ma tête, elle tourne. Il me dit, non, mais tu as aussi une contusion au cervelet. Donc en fait... Je découvre petit à petit d'autres conséquences.
Que personne t'avait dit ?
Que personne m'avait dit.
Et tu t'apprends ça comment alors ? Du coup, quand est-ce que t'as la photo complète ?
La photo complète, je l'ai encore plus tard, puisque on s'est bien occupé de moi aussi à Paris pendant quelques semaines à l'hôpital, et donc je retourne pour remercier le service qui m'a gardé en observation et qui m'a soigné pendant les quelques semaines à Paris. Et quand je vois mon ami médecin dans le service, il me dit, puisque t'es là, viens, on va profiter, je vais te faire une radio des poumons. Ah. Alors, fait radio des poumons, il dit, je suis contente, tout va bien. Je dis, mais pourquoi tu m'as fait une radio des poumons? Il me dit, parce que t'avais une entaille à la plèvre. Ah, je savais pas non plus que j'avais une entaille à la plèvre. Et donc, il paraît que normalement, on met une sonde, c'est le protocole normal. Et là, les amis médecins avaient décidé de ne pas mettre une sonde pour éviter des infections en espérant que ça se réparerait tout seul. Et ça s'est réparé tout seul et c'est ça qu'ils voulaient vérifier.
Donc, ils ont fait un peu un pari quand même.
Ils étaient deux médecins et... Alors, je dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit tout ça ? Parce que j'apprenais petit à petit... Moi, je savais que j'avais des côtes cassées et puis toutes les contusions, mais je savais pas pour le cervelet, pour la plèvre, et peut-être d'autres choses encore. Et en fait, mon ami médecin m'a dit on pouvait pas mettre ça dans le dossier, sinon on n'aurait pas pu te transporter.
Non mais les voyous.
Mmh. Voilà, on n'aurait pas pu te transporter. La médecin d'Annecy nous a fait confiance. Et pour pas qu'elle puisse un jour avoir un quelconque ennui, d'avoir laissé partir en avion quelqu'un dans ton état, donc on a éludé un certain nombre de choses dans le dossier.
Ah oui, c'est un truc de film, quoi. Mmh. Et il avait des vérifications et tout s'était remis en place comme prévu.
Bah oui, miraculeusement, je pense que je n'ai pas de séquelles physiques.
Est-ce que tu veux parler de la décision que vous avez prise ensemble avec lui ou tu veux pas aborder le sujet?
Non, ça me dérange pas d'aborder le sujet. Il se trouve que j'avais je découvre que je suis enceinte de très peu de jours. Et en concertation avec mon ami médecin, il me dit « Prends pas le risque de le garder ». Alors moi, dans un premier temps, je me suis dit, s'il a tenu, et puis surtout si c'était quelques jours, c'était un grain de riz, il a peut-être pas souffert du choc. Mais j'ai fait confiance à mon ami médecin, il m'a dit, écoute, prends pas le risque. On ne sait pas. On ne sait pas. Et voilà, donc je n'ai pas gardé ce bébé.
C'était un projet que tu avais avec ton compagnon d'avoir un enfant ?
C'était un projet, mais je suis contente d'avoir pris cette décision.
Ça donne des infos sur la suite de votre histoire, quand même. Ça donne quand même un peu d'indice.
Absolument, mais c'est très exactement ça.
Tu dis que tu n'as pas de séquelles physiques aujourd'hui, mais ça a quand même eu des répercussions profondes sur ta vie ensuite.
Oui.
Bah déjà, on peut aborder le sujet. Qu'est-ce qu'il est advenu de cette histoire d'amour ?
Il y a eu, oui, ce qui est advenu de cette histoire d'amour, et puis il y a eu quand même un mort dans l'histoire. Alors, on parle de moi, mais justement, moi, il y a eu cet ami qui est mort, et dont la femme ne voulait pas qu'il fasse d'hélicoptère parce qu'elle avait peur. Et donc, il lui avait dit qu'il était sur un tournage, mais il n'avait pas dit qu'il faisait de l'hélicoptère. Et donc, d'habitude, il l'appelait tous les jours. Et là, comme il n'aimait pas lui mentir, ça faisait deux jours qu'il ne l'avait pas appelé. Et le matin même, tout le monde lui avait dit, écoute, appelle ta femme. Mais il se sentait tellement pas bien de lui avoir menti qu'il n'osait pas l'appeler. Pour lui dire, pour continuer à mentir en disant, je suis sur un tournage, quoi. Et il l'avait appelé le matin. Ce fut son dernier coup de fil. Il avait un petit garçon de 6 ans. Et c'est pour le lien, sûrement, avec... Tu me dis, est-ce que ça a changé ? Ça a changé plusieurs choses. D'abord, j'étais assez casse-cou. Et là, j'ai réalisé que... C'est même pas que j'ai failli mourir. Que ma fille a failli perdre sa mère, en fait. C'était ça ma préoccupation. Parce que je me suis dit, zut, elle a plus son père et j'ai failli ne plus être là.
Donc ça a changé. Là, tu dis, qu'est-ce que tu m'as un jour dit quand on préparait que t'étais même tête brûlée?
Ouais. Quand on me connaissait, j'étais, plutôt une jeune femme raisonnable et tout, mais j'avais un côté tête brûlée quand j'avais 20 ans, je faisais de la moto à 200 à l'heure avec le père de ma fille. Il avait voulu me faire peur et moi ça m'avait bien amusé. Enfin, il avait voulu me faire peur pour que je renonce à en faire, en fait. Et puis ça m'avait pas donné envie de renoncer. L'hélicoptère, je voyais pas du tout le danger, si on était prudent.
Ça a joué dans ta séparation ?
Je pense, parce que s'il y avait eu un accident, ça peut toujours arriver. Mais là, je lui avais dit, enfin, j'avais tenu compte des recommandations qu'on nous avait faites la veille, et je lui ai rappelé ces recommandations en lui disant, attention, souviens-toi ce que le type a dit, il ne faut pas qu'on s'approche trop de la paroi pour pas être victime d'un mort abattant. Et il m'avait envoyé promener, en fait.
Et donc, c'est quoi ? Tu t'es dit, c'est un sale con qui écoute personne. Il est... Enfin, pardon, je ne vais pas rentrer dans les têtes de cette histoire, mais tu l'as pu regarder de la même façon. Tu considères qu'il est responsable de la mort de votre ami ?
Je ne me suis jamais posé cette question. Non, parce que chacun est responsable. L'autre a bien voulu monter. On est tous montés. Je ne dis pas qu'il est responsable. Il aurait pu mourir lui aussi, par miracle, il n'est pas mort. Mais Non, pas parce que je le considère comme responsable, parce que... Mais je l'ai sûrement vu autrement, oui.
Est-ce que du coup, après, t'es devenue très angoissée, très flippée, très protectrice, très... Est-ce que ça t'a pétrifiée?
Les premiers temps après l'accident, j'étais complètement euphorique. J'étais euphorique, c'était « il peut plus rien m'arriver ». Je me disais « il peut plus rien m'arriver » parce que c'était miraculeux que je sois vivante. Je regardais avec bonheur les petits oiseaux, les fleurs, les arbres dans Paris. Je les regarde toujours avec bonheur, mais là encore plus.
Parce que tu avais l'impression d'être une miraculée.
Oui. J'avais vraiment l'impression de naître, quoi, de... Ouais.
Et donc, tu t'es dit quoi? Il faut vivre plus fort, plus intensément, faut savourer chaque seconde de cadeau de, après ta renaissance?
Oui, faut savourer, exactement. C'est faut savourer chaque seconde. Mais là où ça m'a rendue peut-être plus angoissée, c'est ça. J'ai perdu mon côté casse-cou. J'ai perdu mon côté casse-cou parce que je m'en suis voulu d'avoir pris un risque. De faire un truc dangereux alors que j'étais responsable d'une enfant.
Et donc, t'as plus pris de risques superflus ou pas indispensables après, c'est ça?
Ouais.
Les gens qui ont vécu un grand fracas me disent souvent qu'ils ont, après, ou quand ils ont échappé à quelque chose, bah, cette frénésie de vie, ou parce qu'ils ont vu la mort de très près ou un désastre de très près, qu'ils ont mis les choses à la bonne place, ce qui est important, ce qui est pas important, et ils ont eu envie de vivre plus fort, plus grand, plus intensément, mais tout systématiquement me disent qu'après, au bout d'un moment, on se renormalise, on n'est plus si intense, et qui sont presque tristes d'avoir perdu ce moment un peu exceptionnel de survie et de vie plus grand et plus fort.
C'est exact, c'est pour ça que je te disais, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu cette première période d'euphorie, où par exemple j'ai repris l'avion, j'ai pris des grands vols de 12 heures, et puis je me disais, il ne peut plus rien m'arriver. Et puis il y a eu le contre-coup, peut-être un an après, où là j'étais terrifiée à l'idée de prendre l'avion, parce que je savais que les objets volants peuvent tomber, quoi. Pendant un an, pas du tout, mais c'est après. Alors, pendant la dizaine d'années qui a suivi, j'ai continué à prendre l'avion, mais j'étais terrifiée à chaque décollage, dès qu'il y avait la moindre turbulence, l'atterrissage, le moindre bruit, j'étais terrifiée. Et puis après, les choses se normalisent par rapport à la frénésie de vivre. Mais en même temps, j'ai toujours eu le goût de la vie, mais je crois que je l'ai encore plus.
T'as déjà pensé à la vie que t'aurais eue si t'avais pas eu cet accident?
Non, j'ai pas envie d'y penser.
Tu te rends compte que ça veut peut-être dire que ça a réorienté ta vie dans une direction mieux?
Tu veux dire que l'accident m'a orienté dans une meilleure direction?
Mmh.
Oui, sûrement. Sûrement.
C'est fou quand même. Ça veut dire que même d'un truc atroce, on peut tirer un bénéfice.
Bien sûr. Bien sûr. Surtout parce que je suis restée en vie et sans séquelles, quoi. Si j'étais restée tétraplégique, j'aurais peut-être pas pensé de la même façon.
Tu penses quelquefois que t'aurais dû être devant dans l'hélico?
Ça, j'y pense souvent. Mais ça veut pas dire que je serais forcément morte parce que j'aurais été devant. Mais peut-être. Peut-être, et je me dis que quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure, quoi.